les partageurs d'émotions. Eh bien, bonjour aux auditeurs de Mosaïque FM pour la 7e émission de partage des partageurs d'émotions. 7e émission, c'est le signe que on va pouvoir continuer parce que on sait très bien qu'au bout de 7 ans de mariage, ou le mariage continue ou c'est le divorce. Donc nous, on en est à la 7e émission. J'espère qu'on en fera une 8e. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc-Henri Solange, qui a déjà écrit plusieurs ouvrages dont nous allons avoir l'occasion de discuter. Ensuite, on va s'attarder plutôt sur son premier ouvrage qui s'appelle « Un grand cœur malade ». Et vous verrez qu'il y aura, comme on l'a dit en titre, beaucoup, beaucoup d'émotions au travers de ce premier livre. Donc avant, je vais laisser la parole à Yann pour une biographie rapide de notre invité du jour.
Biographie.
1950, Algérie, naissance de Marc-Henri Solange. Il est élevé au sein d'une famille soudée et sans histoire. Mais suite à la guerre d'Algérie, celle-ci doit s'exiler en France, à Lyon. Là-bas, il s'entoure de mauvaises rencontres et ses séjours en prison en témoigneront. Plus tard s'opère un changement alors qu'il débute une nouvelle vie sur la Côte d'Azur. Marc-Henri Solange devient alors le grand chef d'entreprise à qui l'on décernera en 1988 le Grand Prix des entreprises françaises. Cela ne sera pas suffisant pour faire oublier les ombres du passé. En 2007, il est de nouveau incarcéré. Mais les barreaux, l'obscurité, la solitude, la douleur psychologique, tout cela n'est rien face au mal qui l'attend. Son seul enfant, âgé de 36 ans, succombe à une rupture de l'aorte. Sa seule et unique force n'est plus. Il faut éviter la folie. Pour lui, c'est un monologue qu'il décide d'engager en s'adressant à son fils. Les mots sont simples et bruts, saisissants d'honnêteté. Le roman s'intitule « Grand cœur malade ». Les ventes s'envolent et la passion du nouvel auteur pour sa plume ne cesse de croître. S'en suivront alors d'autres ouvrages, tels que Barabbas, prince des faussaires, L'homme qui se cachait pour mourir, Un bruit qui court à Monaco. Il réussit à dire avec des mots crus et sans détour ce que beaucoup d'entre nous avons déjà ressenti, sans jamais parvenir à l'exprimer vraiment.
Merci Yann. Alors déjà, ce qu'on peut ressentir à la lecture de cette bio, et dont on parlera une fois encore avec notre invité du jour, c'est la vie particulièrement, on va dire, riche en événements qu'a vécu jusqu'à ce jour notre auteur. Vous verrez que ça vaut quand même la peine d'être entendu. Avant cela, une petite... Alors, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans cette émission, ce n'est pas une page de livre que nous allons lire, mais à la demande de Marc-Henri Solange, on va lire un petit texte qui évoque le livre dont on va discuter ensuite.
Lecture.
La perte d'un enfant n'est pas dans l'ordre des choses, mais le vivre seul entre les quatre murs d'une prison est un calvaire sans nom. T'écrire, te parler pour continuer à vivre, dit ce père à son fils disparu. Véritable témoignage d'un douloureux chemin et d'un retour à la vie. Par ce monologue, son fils mort revit dans sa mémoire et l'aide à devenir ce qu'il est vraiment, à s'épurer jusqu'au cristal dont il sortira grandi. Un livre émouvant et pudique à l'extrême, une grande leçon de vie où quand tout paraît fini, tout est encore possible et où le pire n'est jamais certain.
En direct avec l'auteur.
Marc-Henri Solange, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc à la lecture de ces quelques phrases, on se rend compte, comme vous le dites d'ailleurs vous-même, que la perte d'un enfant n'est pas dans l'ordre des choses. Mais en plus, quand le père, vous, est incarcéré dans ces moments difficiles, ça devient carrément inconcevable. Et je me demande vraiment comment vous avez fait pour supporter une telle épreuve.
Eh bien, heureusement que j'ai trouvé l'écriture pour pouvoir remonter tout cela, parce que j'étais descendu, j'avais une véritable descente aux enfers, puisque même un soir, j'avais décidé de mettre fin à mes jours, et il y a comme une petite lueur dans ma tête, comme si c'était mon fils qui s'adressait à moi, en me disant, papa, je veux pas que tu mettes un genou à terre, je veux que tu te battes et que tu continues à vivre. Et là, je me suis mis à écrire. C'était la première fois que j'écrivais. Et j'estime que j'ai pas eu tellement beaucoup de mérite, parce que j'ai l'impression que j'écris à quatre mains. Bon, les gens croiront, les gens ne croiront pas. Mais quand j'écris, je sens la présence de mon fils tout près de moi. Et j'ai réussi, entre guillemets, à faire mon deuil dans un endroit aussi hostile qu'est la prison, quoi. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à vivre. Et à la suite de ça, je me suis découvert une passion pour l'écriture et j'ai enchaîné des romans. Voilà.
Vous n'aviez donc jamais écrit auparavant ?
Non, jamais, non. Bon, j'étais chef d'entreprise, disons que je suis un autodidacte. J'ai eu l'honneur de diriger des entreprises très très importantes, puisque d'ailleurs j'ai tiré un autre livre de ça qui s'appelle « Un bruit qui court à Monaco ». J'étais président d'un groupe qui avait 250 magasins en France, qui diffusait des accessoires de mode, et qui a terminé par un gros crash par rapport à une banque monégasque qui a déposé son bilan et qui m'a entraîné dans son sillage.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez un caractère incroyable, parce que comment on peut vivre autant de montées avec un succès formidable tel que la chaîne de magasins dont vous venez de nous parler, ensuite retomber aussi bas jusqu'à aller en prison, et puis la mort de son enfant qui vous pousse à écrire. Enfin, c'est comment on peut vivre tout ça, quoi. En une vie, vous avez vécu plein de vies.
Oui, pour tourner un peu tout ça à la dérision, dernièrement, il y avait quelqu'un de la télé qui me disait, en lisant mon histoire, que j'étais un homme humain. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu une vie très atypique, on peut pas dire le contraire, mais je suis un battant, je me bats, donc c'est en moi, ça, je pense que... Mais tout le monde peut le faire, il suffit de, comme je l'ai dit dans le résumé de mon livre, le pire n'est jamais certain, et quand tout paraît fini, tout est encore possible, quoi. Et il faut se battre, et vous savez, on est dans une conjoncture actuelle qui est très morose, mais il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils se battent et ils y croient et ils relèvent les manches, et puis voilà, c'est dans la nature humaine, ça. Tout le monde a ça en soi, mais bon, il y a des gens qui ne le développent pas, voilà. Moi, j'ai cette chance de pouvoir développer cela.
Alors, peut-être que tout le monde a tout cela en soi, comme vous dites, mais enfin, moi, je trouve que vous faites preuve d'une belle humilité. Qui est tout à votre honneur. Je reviens un petit peu au livre. C'est vrai que l'écriture que vous avez utilisée pour Un grand cœur malade est une écriture simple, directe, qui touche au cœur du lecteur. Et ça, on ne peut que vous en remercier. J'imagine que vous avez déjà dû vendre beaucoup de livres, d'exemplaires de ce livre.
Oui, sur les quatre livres qui sont en vente en ligne, c'est certain que c'est le livre de mon fils qui détient la palme d'or, quoi. Voilà. Mmh. C'est celui qui est le plus vendu. Bon, c'est vrai que j'écris d'une manière, je me considère pas du tout comme un écrivain qu'on pourrait dire littéraire. Au contraire, je revendique plutôt le titre d'écrivain populaire. J'écris comme je parle. Et j'ai réussi bien à faire passer ce message, puisque la plupart de mes lecteurs m'écrivent beaucoup. Je reçois énormément de mails tous les jours. Et il revient toujours la même chose. On n'a pas l'impression de lire. On a l'impression d'écouter, quoi. Voilà, comme un conteur, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. Moi, quand j'ai ce genre de retour, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est ce que je voulais faire ressentir aux lecteurs, de cette façon d'expliquer, pas avec des grandes phrases, avec des grands mots, avec le langage courant qu'emploie tout le monde tous les jours, quoi. Voilà.
Alors ça, je peux confirmer, parce que j'ai eu l'occasion de lire les quatre ouvrages, et c'est vrai qu'on a l'impression de vivre en direct tout ce qu'on est en train de lire, et c'est un talent particulier. Je reviens quand même un petit peu sur votre incarcération, si vous me le permettez. Je voudrais qu'on parle de l'historique de cette incarcération, puisque c'est quelque chose qui vous a évidemment touché et qui est aussi le sujet d'un autre de vos ouvrages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, « Un bruit qui court à Monaco ». Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, M. Solange ?
Vous savez, on va partir au départ. J'avais démarré dans la vie... très très bien avec mes parents, c'était une famille sans histoire, très bien. Et j'ai vécu le drame du retour en France après l'Algérie très très mal, moi. Et je, je suis rentré dans une sorte de délinquance quand j'étais très jeune. Et automatiquement, après ce parcours en prison, m'a toujours poursuivi tout au long de ma vie, quoi. J'ai eu beau monter de belles affaires, il y avait toujours quelque chose où on venait me, comme on dit vulgairement, me chercher les poux dans la tête. Et ce qui était permis pour les autres ne l'était pas pour moi, voilà. Il a fallu que j'attende 62 ans pour vraiment comprendre cela, parce que avant, si vous voulez, j'avais une sorte de rébellion contre ça, en disant, mais je ne comprends pas, je fais les choses bien, j'ai créé 700 emplois, tout ça, pourquoi cet acharnement envers moi? Mais bon, ben, je comprends une chose aujourd'hui, avec la sagesse de l'âge, de dire, bon, ben, quand on a commis des erreurs dans sa vie, malheureusement, j'avais un ami à moi qui disait une chose, quand on est condamné une fois, on paye le capital en étant en prison, et après, tout au long de la vie, on paye les intérêts. Et je pense que l'image est très bonne, voilà.
Mais vous n'avez pas de haine aujourd'hui vis-à-vis de certains?
Non, j'ai pas du tout de revanche à prendre ou quoi que ce soit. Je l'ai eu pendant longtemps. À la mort de mon fils, j'ai complètement changé. Je me reconnais pas moi-même. M'arrive souvent dans la journée de par mes réactions de m'apercevoir que j'ai vraiment changé, quoi, parce que on relativise tout. C'est la perte d'un enfant. Je crois que c'est la pire des choses. C'est pas bon. Les parents, on s'y attend. Voilà, on est préparé à cela. D'ailleurs, moi, si vous voulez, bon, j'ai passé 4 ans vraiment dans une détresse énorme, parce que j'ai perdu tous mes repères. En 2007, en février, j'ai perdu ma maman. Mon papa a suivi au mois de juin.
Et un an après... Au mois de juin de la même année. Au mois de juin, la perte de votre papa au mois de juin de la même année que celle de votre maman.
De la même année, à quatre mois d'intervalle. Et un an après, pratiquement jour pour jour, la perte de mon fils. Alors vous savez, quand vous perdez tous vos repères, vous voyez les choses différemment. Honnêtement, je vais vous dire une chose. J'ai eu des réussites dans ma vie. J'entends réussite financière. Aujourd'hui, les réussites financières sont beaucoup moins importantes qu'avant, mais je peux dire une chose, je suis vraiment bien dans ma peau pour la première fois de ma vie. Vraiment, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma vie, j'ai retrouvé la paix de l'esprit. C'est pour ça que j'ai perdu ce sentiment de revanchard, tout ça, je l'ai complètement perdu, parce que au contraire, maintenant, je m'ouvre aux autres. Si je peux aider les gens, je les aide beaucoup plus facilement qu'avant, et c'est une véritable renaissance pour moi.
À 62 ans.
Et c'est formidable, à 62 ans, de revivre une autre vie. Mon parcours de vie, il est de quoi? De 10, 15 ans, 20 ans, maintenant. Ben, je peux vous assurer que ces 20 ans, je vais bien me les faire. Et ça va être très très bon pour moi.
Presque à croire que le départ de votre fils vous a permis d'acquérir une forme de spiritualité et de sérénité qui est ce qui vous anime aujourd'hui.
Tout à fait. Ben, vous savez, souvent, les bonnes choses sortent après un grand malheur. Voilà. Et le malheur est très grand, là, je peux vous le dire. Il se passe pas une heure par jour où je ne pense pas à lui.
Voilà. Ça va donner la chair de poule à beaucoup d'auditeurs, ça je l'imagine, ça me la donne déjà à moi-même. Donc,
moi, en vous parlant, je l'ai, la chair de poule, à chaque fois.
C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve hein, dans l'ensemble de vos ouvrages, on retrouve cette honnêteté qui semble vous caractériser, cet appel vers les autres. Et quand on sait tout ce que vous avez subi, c'est quand même quelque chose de formidable. Et je vous tire mon chapeau, M. Solange.
Une autre... Vous savez, grand cœur malade, je l'ai fait pour moi, pour mon fils, surtout, qui me voit de là-haut et qui doit être très très fier de moi. Oui, l'émotion est en train de me gagner, là. Et aussi, pour les autres, les gens qui ont perdu un être cher, des parents, des enfants, parce que je m'aperçois que je suis pas le seul dans ce cas, il y a énormément de gens qui ont perdu des enfants. Et c'est un message à travers ce livre que je fais passer, que j'ai essayé de faire passer, je pense qu'il est bien passé quand je vois le courrier de mes lecteurs, de leur dire, après un deuil... Il faut en parler, il faut pas s'enfermer dans une morosité en disant j'ai perdu un enfant et puis ou quelqu'un de cher et rester cloîtré avec ça dans sa tête. Il faut au contraire s'ouvrir aux gens, tout ça, et disons que je dis pas qu'on oublie, parce que ça c'est une chose qu'on peut jamais oublier, jusqu'à la dernière seconde de ma vie j'y penserai, mais disons que ça soulage beaucoup. Voilà, ça soulage beaucoup.
Êtes-vous
croyant? Souvent, quand il y a des gens qui m'écrivent qui ont eu une perte très proche, ils me disent qu'à travers ce livre, ils ont ressenti justement quelque chose, et ça les aide après à rebondir pour essayer de voir les choses différemment.
Êtes-vous croyant?
Je ne l'étais pas avant, je l'ai été encore moins quand j'ai perdu mon fils. D'ailleurs, je l'écris dans le livre, je m'adresse au bon Dieu en lui disant « Je ne crois plus en toi parce que je viens de m'apercevoir que ce n'est pas réciproque ». Et petit à petit, en sentant la présence de mon fils quand j'écris et tout, je me suis mis à y croire très très fort. Je me suis mis à y croire très très fort parce que il n'y a pas de hasard. On peut pas devenir écrivain comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Si je suis devenu écrivain, j'aime pas tellement ce titre, un auteur, voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. On peut pas d'un coup s'improviser écrivain ou auteur de livre comme ça du jour au lendemain. Donc c'est qu'il y a quelque chose de là-haut qui m'a permis de le faire. Donc je crois beaucoup plus maintenant. Voilà.
Très bien. Le temps passe vite. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais juste vous poser une dernière question relative à vos projets éventuels, peut-être. En avez-vous? Vous êtes peut-être en train d'écrire un cinquième ouvrage?
Non, en fait, j'en ai écrit en tout 8. J'en ai sorti 4, donc il y en a 4 autres qui vont sortir d'ici le printemps 2012. Très bien. Et je suis en train d'en écrire un 9e en ce moment. Voilà.
Très bien, bon, donc vous avez une activité forte.
Si vous voulez, pour moi, ça me permet de continuer à vivre, c'est l'écriture maintenant. J'en ai vraiment besoin, c'est une drogue pour moi tous les jours. J'ai besoin d'écrire. Même si j'écris qu'une heure ou deux, j'en ai vraiment besoin, voilà.
Bon, ben écoutez, Marc-Henri Solange, avant de nous quitter, je tiens à vous dire que votre sincérité est passée, en tout cas en moi, et je suis sûr auprès de bon nombre d'auditeurs. Je vous souhaite tout le meilleur possible pour les nombreuses années à venir, et je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de votre temps.
C'est moi qui vous remercie de vous être intéressé à moi, et puis bon, pour tous les lecteurs qui me liront, un petit coucou en leur disant que qu'ils essayent de lire au moins un livre, et je pense qu'après ils liront tous les autres.
Mais j'en suis persuadé. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut lire de larges extraits de vos ouvrages sur le site jelivremonhistoire.com. Merci encore.
Et aussi, la vente de mes livres se font à travers la Fnac en ligne, Amazon en ligne, d'après mon site, et je vais me permettre de le donner.
Je vous en
prie.
Donc
c'est Marc-Henri avec un Y-Solange.com. Voilà.
Bien. Ben écoutez, je pense que ce sera entendu. Merci encore, merci aux auditeurs,
et
puis à très bientôt. Au revoir à tous.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.